La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Alors que les robots ont déjà largement commencé à envahir notre quotidien, les changements technologiques en cours modifient considérablement nos relations aux machines. En interagissant avec des robots exactement comme nous le faisons avec des humains, eh bien c'est tout notre devenir qui va s'en trouver bouleversé. L'intelligence artificielle rebat les cartes de la psychologie et outre la révolution qui se prépare dans le domaine technologique, économique ou juridique, les changements concernent aussi la construction de notre identité. Comment dans ce contexte des progrès fulgurants autour de nos interactions avec les robots, la psychologie traditionnelle peut-elle repenser ses approches? On va en parler dans un instant avec le psychiatre Serge Tisseron qui publie un petit traité de cyberpsychologie aux éditions du Pommier. C'est le dossier de l'émission dans un instant avec vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. On retrouvera Axel Villard dans un instant à la une de la science autour d'un texte paru vendredi dans la revue Science et signé des plus grands scientifiques de la biodiversité et de la toxicologie. Il lance un message choc contre les néonicotinoïdes, ces pesticides qui sont en train de ravager une bonne partie des insectes pollinisateurs. Fanny Boyon réalise cette tête au carré qui a été préparée par Chantal Le Montagnier avec Lucie Sarfati et Hannibal Ouachi.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Serge Tisseron.
Bonjour Mathieu Vidard.
Vous êtes psychiatre et vous publiez ce petit traité de cyberpsychologie aux éditions Le Pommier. On vit un grand bouleversement en ce moment, celui qui concerne justement notre rapport aux machines, la façon dont on interagit quotidiennement aujourd'hui avec les différentes formes d'intelligence artificielle. Tout ça, ça modifie considérablement le champ même de la psychologie finalement.
Oui, absolument. On sait que, actuellement, l'être humain transforme énormément le monde. Notre environnement doit composer avec les différentes formes d'intelligence artificielle, les robots virtuels, les chatbots. Mais ce qu'on oublie, c'est que toutes ces machines, au fur et à mesure que nous les utilisons, elles nous transforment. Et donc, du coup, comme l'être humain est en train de se transformer très rapidement parce que la technologie évolue très vite, ça oblige à repenser la psychologie. Alors, d'où cette idée d'un petit traité de cyberpsychologie? Pourquoi ce mot cyber, hein? Peut-être il paraît un peu has-been, désuet à certains auditeurs. Il ne faut pas oublier qu'il a été proposé par Norbert Wiener sous la forme de cybernétique. Et cyber veut dire gouvernail. Hein? C'était l'idée qu'on puisse guider dans l'espace des machines qui sont soumises à divers aléas. Il faut leur rendre leur trajectoire. Et donc ce mot m'a paru bien pour dire qu'aujourd'hui, il faut repenser notre trajectoire parce que nous allons de plus en plus diriger des machines, y compris par la voix, par la mimique, mais ces machines aussi vont d'une certaine façon pouvoir nous diriger, donc changer notre manière d'être au monde.
Et tout ça, ça intéresse évidemment le psychiatre en 2018. On va en discuter dans un instant avec vous, Serge Tisseron. Vous êtes notre invité, vous allez répondre également aux messages des auditeurs qui nous rejoignent en direct sur franceinter.fr.
La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Voilà, ils sont 232 scientifiques du monde entier. Cette fois-ci, ils disent stop aux pesticides néonicotinoïdes. Un texte très court, une colonne et demie dans la revue Science, mais il est signé des plus grands spécialistes de la biodiversité, des plus grands toxicologues mondiaux. Ce texte termine en évoquant un échec mondial face à l'urgence absolue que représente la perte d'une grande partie de la biodiversité. Et Axel, pour faire écho à ce message, on reçoit l'un des signataires français du texte.
Oui Mathieu, nous sommes en direct par téléphone avec Jean-Marc. Bon matin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes toxicologue, chercheur pour le CNRS et spécialiste des neurotoxiques, qui est la classe de produits chimiques dont les néonicotinoïdes font partie. En studio également avec nous, Marie Astier, journaliste pour le magazine reporter.net, qui est partenaire de cette une. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Marc, bon matin. Cette publication dans Science, courte et très incisive, elle représente quoi pour vous? C'est le ras-le-bol des scientifiques?
Non, on ne peut pas dire que ce soit un ras-le-bol, mais les scientifiques que nous sommes, les plus grands spécialistes, je pense, au monde sur ces sujets, sont tout à fait d'accord et veulent témoigner. Nous avons un devoir d'alerte par rapport à ce qui est en train de se passer parce que nous avons une position privée. privilégié puisque nous conduisons des études scientifiques sur le sujet. Et donc, ce devoir d'alerte nous oblige à témoigner auprès du public, bien sûr, mais surtout auprès des gouvernements et des décideurs pour que des décisions rapides et efficaces soient prises.
Quand vous dites un devoir d'alerte, peut-être il faut préciser ce qui est en train de se passer pour que vous en soyez venu à publier à 250 pour dire « il faut s'arrêter ».
Très brièvement, ce sont les apiculteurs qui les premiers ont donné l'alerte en France il y a une vingtaine d'années sur ces neurotoxiques systémiques, donc qui contaminent l'environnement, et parce que ce sont en fait les abeilles mellifères qui ont été les premières victimes visibles de l'impact de ces pesticides qui sont utilisés ultra massivement sur la planète aujourd'hui. Ensuite, ont été conduites des études scientifiques, donc à peu près un bon millier d'études scientifiques que nous avons résumées, nous, dans une méta-analyse. Et le résultat de ces études scientifiques est sans appel. Alors, à part les industriels qui commercialisent ces produits, bien sûr, qui défendent leurs pesticides, sinon, tous les autres trouvent que l'impact est inacceptable sur les abeilles, sur les invertébrés terrestres, sur les invertébrés du sol, sur les invertébrés aquatiques. Pour faire court, je dirais sur toute la cascade de la chaîne alimentaire, puisque ces invertébrés sont à la base de la chaîne alimentaire pour d'autres espèces, qu'elles soient insectes, que ce soit des oiseaux, que ce soit des amphibiens, et toute une longue liste d'organismes vivants qui constituent la pyramide de la biodiversité. Tout en haut, nous sommes, nous, les hommes, mais si vous supprimez la base de cette pyramide, qui est en fait un château de cartes, les conséquences seraient dramatiques pour la biodiversité et pour la vie sur la planète. Donc à un moment donné, il faut savoir dire stop, et nous avons voulu le faire d'une manière concise dans une publication scientifique la plus prestigieuse, et c'est destiné à ceux qui nous gouvernent.
Marie Astier pour Reporter.net.
Je me demandais depuis quand ça existe, les néonicotinoïdes. Ça a été très rapide leur effet sur la biodiversité.
Jean-Marc, bon matin.
En fait, ils ont été commercialisés dans le milieu des années 90, petit à petit, et ils ont eu un succès commercial extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'ils ont permis l'utilisation préventive et massive pour protéger les cultures au départ. C'est-à-dire que sans savoir s'il y aura des ravageurs ou pas, on traite au moment du semis en enrobant la semence du pesticide. Donc 100% des cultures étaient traitées dans plus d'une centaine de pays, ce qui fait qu'on déverse aujourd'hui à peu près 20 000 tonnes de ces insecticides dont, je le rappelle, ils agissent au nanogramme. Donc ça fait une quantité phénoménale potentielle pour tuer la vie sur la planète, et c'est exactement ce qui se passe.
Jean-Marc, bon matin, il y a quand même quelque chose qu'il faut préciser pour une fois qu'on est pionnier. Ces molécules, ces néonicotinoïdes et toutes celles qui y ressemblent sont désormais interdites en France. C'est récent, mais c'est fait.
Alors, la France a été un des premiers pays à autoriser ces molécules, et donc c'est pour cela que c'est en France qu'on a vu les premiers ravages. Par exemple, aux États-Unis, ils n'ont utilisé ces molécules que vers les années 2005, et c'est juste à ce moment-là qu'est apparu ce qu'on appelle le colony collapse disorder en anglais, c'est-à-dire l'effondrement des populations d'abeilles. Donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, les États-Unis arrivent 10 ans derrière nous, et j'espère qu'ils n'attendront pas 10 ans pour suivre les décisions françaises et européennes, puisque la France a voté un amendement en 2016 qui interdit purement et simplement l'usage de tous les néonicotinoïdes sur le territoire à partir du 1er septembre 2018.
Est-ce que malgré l'interdiction, les dégâts sur les insectes vont continuer ?
Alors le problème, c'est que 20 ans d'utilisation de ces néonicotinoïdes, mais une utilisation massive partout, ont fait qu'il y a une pollution maintenant généralisée de l'environnement, que ce soit le sol, l'air et les eaux de surface, et même les eaux profondes. Pour ceux qui disparaîtront le plus vite, ça prendra à peu près 5 ans pour qu'on soit débarrassé, et pour ceux qui disparaîtront le moins vite, ça prendra plutôt 30 ans. Donc on n'est pas sorti de cette affaire, mais ce que nous, les scientifiques, nous disons, c'est qu'il est urgent d'en sortir, puisque plus tôt on en sort, plus tôt on prononce des décisions politiques fortes sur ces sujets, plus tôt on sera débarrassé de ces produits.
Jean-Marc, bon matin, on peut faire confiance aux industriels pour créer de nouvelles molécules aussi dangereuses que les néonicotinoïdes. Est-ce que c'est ce qui risque d'arriver ?
En fait, fait, les industriels, quand on interdit un produit, tout de suite, ils replacent sur le marché un autre produit, souvent qui ressemble beaucoup, et puis le tour est joué, si j'ose dire. Là, ce qu'on a voulu, on a fait pas mal d'études sur ce sujet, on a voulu remettre en question un peu ce système agricole qui utilise massivement les pesticides, parce que la pollution environnementale, et qui finit dans nos assiettes et dans nos verres, hein, cette pollution environnementale a des conséquences graves, notamment sur la santé humaine. Donc, on a voulu étudier le bien fondé de l'utilisation des pesticides, et je vais vous donner le résultat très rapidement. D'une part, dans l'immense majorité des cas, ils ne servent à rien, c'est-à-dire que les cultures ne sont pas attaquées par les ravageurs, ou si elles le sont dans une mesure qui est extrêmement faible, donc qui ne nécessite pas qu'on traite tout et tout le temps. Et d'autre part, on s'est rendu compte que le bénéfice pour le monde agricole n'était pas là. C'est-à-dire que les insecticides, en particulier ceux-là, coûtent très cher. Et lorsqu'on s'en passe et qu'on remplace par des techniques alternatives qui marchent très bien, l'ANSES vient de publier un rapport d'ailleurs sur ce sujet qui montre que dans 78% des cas, on n'a même pas besoin de pesticides chimiques. Donc lorsqu'on remplace les pesticides par des techniques alternatives qui marchent très bien, qui ont été éprouvées, eh bien les cultures prennent de la valeur, elles se vendent plus cher. Donc pour le monde agricole, c'est gagnant du côté des économies de pesticides et c'est gagnant parce que la récolte est vendue plus cher. Donc en fait, d'une part, ils ne servent pas à grand-chose, et d'autre part, sans eux, les bénéfices des agriculteurs seraient plus élevés.
Merci beaucoup Jean-Marc Bonmatin. Je rappelle que vous avez été un des signataires français justement de ce texte paru vendredi dans la revue Science. Merci beaucoup à vous d'être intervenu aujourd'hui à la Une de la Science. Et puis Marie Astier, on jette un coup d'œil au sommaire de reporter.net.
Alors aujourd'hui, à la Une de Reporter, il y a le quatrième volet de notre enquête sur les compteurs dits intelligents Linky.
Ah oui,
voilà,
ça défrait la chronique.
C'est ça, il y a une très forte opposition, on a voulu comprendre pourquoi ça mobilisait autant les gens. Et le papier d'aujourd'hui, on part en Allemagne et en Autriche, où le développement de ces compteurs pose problème, notamment sur la question de la protection des données personnelles.
Merci beaucoup Marie Astier. Axel, à demain.
Et à demain,
pour
Mathieu.
Une nouvelle Une de la Science. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la recherche de la vie pourrait bien également se faire sur les lunes. Jeudi dernier, dans la revue Astrophysical Journal, une équipe de chercheurs américains annonçait avoir dénombré pas moins de 121 planètes géantes susceptibles d'abriter des exolunes propices à la vie dans notre galaxie. Selon les scientifiques, ces lunes pourraient même présenter de meilleures conditions de vie que notre Terre, du fait de l'énergie procurée par leur soleil, mais aussi par les géantes gazeuses autour desquelles elles gravitent. Les chercheurs tentent désormais de mettre au point un télescope capable de détecter des biosignatures de ces lunes. L'explosion de l'intelligence humaine serait-elle due à une anomalie génétique? Des chercheurs de l'Université de Californie ont découvert un nouveau gène impliqué dans le développement du cerveau en comparant l'ADN de l'homme à celui des primates. La mutation génétique rare qui a été découverte aurait permis au cerveau de nos ancêtres humains de grossir trois fois plus que ceux des singes. Il y a moins de 4 millions d'années de cela, l'évolution donc de la taille des boîtes crâniennes observées sur les fossiles semble concorder avec l'apparition du gène. Et puis indignation chez les écologistes suite à un rapport révélant que plus de 300 baleines ont été tuées l'été dernier par les baleiniers japonais. Cette pêche pourtant illégale à Tokyo est rendue possible grâce à une faille judiciaire qui justifie cette pratique pour la recherche scientifique. Les activistes espèrent que ces derniers chiffres permettront de faire pression sur le Japon qui prévoit de chasser environ 4000 baleines dans les 12 années à venir. Allez, un petit traité de cyberpsychologie avec Serge Tisseron, c'est notre dossier dans un instant. Sylvia Seys, extrait de son dernier album Charlotte Gainsbourg.
La tête au carré sur France Inter.
Serge Tisseron, vous êtes notre invité cet après-midi à l'occasion de la sortie de votre ouvrage Petit traité de cyberpsychologie. C'est aux éditions Le Pommier avec les auditeurs qui nous rejoignent. Les questions pour vous, les messages franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Vous êtes psychiatre, Serge Tisseron. Vous êtes membre de l'Académie des technologies. Vous êtes aussi président de l'Institut pour l'étude des relations hommes-robots, un domaine dans lequel vous étudiez nos rapports aux nouvelles technologies. Cet institut, il existe depuis combien de temps maintenant?
Depuis 2013. Depuis 2013 ouais. Maintenant. Oui, oui. Absolument.
Qu'est-ce qui a suscité son émergence?
La pauvreté des recherches, justement, autour des relations que nous entretenons avec les machines. Ouais. Il y a énormément d'informations partout, sur Internet, dans les journaux, à la télé, sur les nouvelles machines qui arrivent, qui vont bientôt d'ailleurs arriver sur le marché du commerce, qui vont arriver dans nos maisons. Mmh. Et il y a très peu d'études sur les modes de relations que nous allons établir avec ces machines. Or, il est bien évident que ces modes de relations vont nous transformer, vont aussi transformer les relations que nous avons avec les humains. Tout est possible dans le domaine de la recherche aujourd'hui. Tout n'est pas forcément souhaitable. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il m'a paru important de créer cet institut des études de la relation homme-robot de manière à baliser. Et une des premières choses que nous avons faites, d'ailleurs, c'est de créer une charte éthique pour donner des repères qui nous paraissent essentiels dans ce que pourrait être demain, déjà aujourd'hui, mais plus encore demain, les contraintes imposées aux robots pour que les relations que nous avons avec eux nous humanisent et ne nous déshumanisent pas.
Ouais. Est-ce que vous étudiez déjà les relations que nous avons tout simplement avec les écrans, avec nos smartphones, qui sont déjà des outils qui ont totalement bouleversé notre humanité, hein ?
Ah oui, alors tout à fait, d'autant plus que ça, j'avais déjà commencé avant de créer l'Institut pour l'étude des relations en robots, avec une autre association qui s'appelle 3-6-9-12, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans.
Pour les écrans.
Oui,
hein.
Voilà, autour des écrans. Et donc en fait, si j'ai été élu à l'Académie des technologies, c'est que cette préoccupation des relations que nous entretenons avec nos outils numériques est une très ancienne préoccupation chez moi. Mon premier livre en 1998, Comment l'esprit vient aux objets, c'était déjà une réflexion sur la relation que nous avons avec nos objets du quotidien. Et puis, petite mythologie d'aujourd'hui, relation avec les objets technologiques qui apparaissaient dans les années 2000. Et aujourd'hui, le parc technologique s'est considérablement enrichi. Et il va exploser dans les années qui viennent, comme vous savez, avec les chatbots, avec les robots virtuels, toutes ces machines avec lesquelles nous allons interagir comme avec des humains, que nous pourrons même peut-être, pour ce qui concerne certains robots, que nous pourrons regarder dans les yeux, comme nous regardons dans les yeux des humains quand nous leur parlons, tout en ne devant pas oublier qu'elles ne sont pas des humains.
Est-ce que vous accepteriez d'allonger un robot sur votre divan de psychanalyste, Serge Tisseron? Je suis sûr que vous diriez oui, ne serait-ce que pour l'expérience, mais imaginons que la chose puisse vraiment se faire.
Alors si la chose pouvait se faire, ça serait passionnant. Ce qu'on peut attendre de plus extraordinaire de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle nous raconte sa vision du monde. Ouais. Mais c'est pas de mal à veille. Je crois, malheureusement, je verrai pas. Les robots actuels se contentent de répéter les programmes que leurs programmeurs ont prévus pour eux et ils se révèlent vite assez bêtes. Oui. Mais ça serait, peut-être qu'un jour ça deviendra possible et je pense d'ailleurs que ça sera la chose la plus intéressante, c'est de comprendre comment des créatures qui peuvent interagir avec leur environnement selon des lois totalement différentes de la manière dont nous interagissons avec notre environnement se voient elles-mêmes et voient cet environnement. Mais ne rêvons pas, c'est pas de mal à veille.
Justement, quand on est un spécialiste du psychisme et du divan et qu'on regarde un petit peu l'humanité ces dernières décennies, aujourd'hui avec ses outils technologiques et puis avant leur émergence, qu'est-ce qui a fondamentalement changé, selon vous en tous les cas, dans la psyché humaine par rapport à cette vie auprès des outils ?
Alors, la communication et puis la relation à l'absence. Mais en même temps, on ne peut bien comprendre la relation nouvelle que nous avons avec les autres et avec nous-mêmes compte tenu des outils technologiques actuels que si on prend en compte une longue évolution. Regardez, il y a eu une époque quand deux personnes se quittaient physiquement pour une semaine, pour un mois, elles savaient qu'elles n'auraient aucun moyen de communiquer entre elles. Et puis, il y a eu du courrier de plus en plus rapide, à tel point qu'au début, quand quelqu'un écrivait un courrier... il l'écrivait à l'imparfait parce qu'il savait que la personne qu'il lirait le lirait quelques jours après et que tout était déjà passé. Bon, avec le développement du téléphone, on a pu se parler, donc la relation à l'absence est devenue différente. Avec Skype, on peut se voir. Et aujourd'hui, il est question que les morts continuent à exister sur Internet, que certains morts puissent délivrer leur message quand on va sur leur tombe, sous une forme audio et même peut-être sous une forme visuelle, à travers aujourd'hui une image sur un écran. écran, mais peut-être demain à travers un hologramme. Et la relation à l'absence, la relation au deuil, en est complètement transformée. Même chose pour la relation à notre identité, même chose pour ce que deviendra probablement bientôt notre relation à la sexualité.
On va écouter justement un extrait de la série Black Mirror, qui est fantastique. Elle est fantastique. Explorer tous les outils technologiques dans tout un tas de cas de figure.
C'est la meilleure.
C'est passionnant. Et là, justement, ça concerne les robots et la mort, ce qui pourrait se passer justement après le décès d'un de nos proches.
Ça m'intéresse pas ton truc, j'en veux pas. C'est obscène d'utiliser son don. Putain, son nom, mais t'es cinglé. C'est douloureux, tu le sais que c'est douloureux.
C'est la raison pour laquelle je t'ai inscrite justement.
C'est quoi ce truc? À quoi ça sert? C'est un pauvre truc de...
Tu cliques sur le lien et ensuite tu pourras lui parler.
Commencer à parler?
Tu tapes des messages, comme pour un email. Et ça te répond, comme lui l'aurait fait.
Mais il est mort!
C'est un logiciel. Il crée un simulacre de la personne. Tu lui donnes son nom. Il fouille dans son passé. Il lit tout ce qu'il ou elle a pu écrire sur Internet de son vivant. Tous ses posts sur Facebook, ses tweets. Tout ce qui a été publié.
Je me suis contentée d'entrer le nom d'H. Le système s'est occupé du reste.
Non, mais c'est un truc de taré! De taré!
Écoute, dis-lui bonjour déjà. Si ça te convainc, tu lui donneras accès à sa messagerie privée.
Plus il a de données, plus il lui ressemble.
Ça le remplacera jamais.
C'est vrai.
Mais ça fait du bien.
Voilà, extrait de la série Black Mirror. Oui, c'est vraiment un truc de taré, effectivement, Serge Tisseron. Oui, mais on imagine le cas de figure.
Oui, en même temps, les deux dernières phrases, ça remplacera jamais. Oui, mais ça fait du bien.
Ouais. Donc ça change complètement notre rapport. On voit voilà, un exemple précis, particulier, d'une modification, d'un bouleversement, justement là, en l'occurrence, du fait de faire son deuil aussi avec une personne.
Oui, alors justement, l'expression « faire son deuil » avait coulé beaucoup d'encre en psychologie, y compris en psychologie très médiatisée. Voilà, il fallait faire son deuil et tout ça. Mais
Il y
avait injonction et culpabilité pour ceux qui n'y arrivaient pas.
C'est
voilà. Envoie chez le psy éventuel. Mais vous voyez, on se dit que la relation au deuil risque d'être complètement bouleversée, que peut-être quelque chose qui serait l'introduction du mort sous la forme d'une effigie
d'un robot humanoïde, avec le visage d'un robot androïde,
donc similitude de ressemblance avec le disparu, capable de parler comme le disparu parlait, que peut-être ça amènera certaines personnes, on pourrait dire, à ne pas faire leur deuil, mais en même temps de ne pas en être malade, hein, puisque le problème c'était de concilier la gestion de la disparition de quelqu'un avec le fait de vivre en paix autant que possible avec cette disparition. Donc l'idée, c'était quelqu'un qui n'avait pas fait son deuil, comme on disait, restait préoccupé, restait en regret de ce qu'il n'avait pas pu dire au disparu, en attente de ce que le disparu n'avait pas pu lui dire. Et donc l'idée, c'était n'attendons plus ce que les disparus ne pourront plus nous donner, hein, et n'attendons plus de pouvoir donner aux disparus ce qu'on n'a pas pu leur donner. Voilà, apprenons à faire une croix là-dessus, comme on met une croix sur une tombe. Et vous voyez bien qu'avec, en effet, des robots androïdes, à l'apparence de disparus, peut-être que des gens pourront vivre en paix avec ces robots, en paix intérieure, sans pour autant avoir besoin de se confronter à ce qu'on appelait traditionnellement faire son deuil.
Ah oui, donc vous voyez ça plutôt d'un bon œil?
Non, hein, je ne le vois pas d'un bon œil. Mais vous savez, comme dit l'Évangile, ce qu'on ne peut pas atteindre en marchant, rien n'empêche de l'atteindre en boitant. Donc, je veux dire, la vie est assez compliquée, et si certaines personnes peuvent trouver un relatif équilibre en utilisant des subterfuges, pourquoi pas? Le seul problème des subterfuges, c'est quand ils viennent à manquer. À ce moment-là, la pathologie, enfin pas la pathologie, mais l'équilibre qui avait été trouvé brutalement rompu. Bon, mais en même temps, nous vivons tous aujourd'hui avec des prothèses en pensant qu'elles continueront à fonctionner autant que nous en aurons besoin.
Il y a toute la question des données hein, aussi autour de cet exemple précis, c'est-à-dire que l'accumulation de ce qu'on délivre aussi en permanence, par exemple sur les réseaux sociaux, on est capable de brosser ensuite un portrait robot finalement de notre identité, parce que nous-mêmes livrons ces informations.
Oui, alors quelque chose de très intelligent dans cet épisode de Black Mirror, c'est que ce personnage donc à l'effigie du mari disparu, ce robot, on pourrait dire à l'effigie du mari disparu, il est parfait dans la vie sociale parce que c'était un homme qui a beaucoup interagi avec les réseaux sociaux et donc toutes les interactions...
Il a donné beaucoup de choses.
Voilà, toutes les interactions sociales sont parfaitement enfermées dans un serveur central qui peut les réutiliser à volonté. En revanche, dès que ce robot est dans la vie intime, c'est-à-dire dès qu'il va se coucher avec la dame qu'il a commandée dans le magasin, eh bien à ce moment-là, il ne ne peut rien dire qui correspond à ce que la dame attend, parce que ces moments-là, il les a pas mis en tweet ou il les a pas mis sur Facebook.
Ça n'a pas été archivé.
Voilà. Et donc, du coup, la dame s'aperçoit que dans la vie sociale, il rend bien, il peut à la limite se comporter pas trop mal comme son mari disparu, mais que dans la vie intime, c'est absolument impossible. Mmh. Et finalement, elle choisit de le marginaliser, voilà, et lui rendre visite un peu comme on va sur la tombe d'un mort de manière rituelle.
Jean-Paul nous dit, les robots remplacent de plus en plus les êtres humains pour des tâches répétitives. Est-ce un progrès pour autant ?
Oui, alors les robots en effet sont très utiles pour remplacer des humains dans des tâches répétitives, des tâches dangereuses, des tâches on pourrait dire humiliantes à la limite, voilà, pour certaines d'entre elles, ou qui peuvent être vécues comme humiliantes. Donc ça, c'est un très très grand progrès. Mais il faut comprendre que ça représente finalement assez peu des métiers possibles et qu'on va être de plus en plus confronté maintenant, beaucoup plus, à la façon dont nous allons pouvoir travailler avec des robots, les fameux cobots, les robots collaboratifs, et quelle forme d'attachement nous allons créer avec ces machines.
Eh bien, ce sont des questions qu'on abordera avec vous dans un instant, Serge Tisseron, à l'occasion de la sortie de ce petit traité de cyberpsychologie.
Aujourd'hui n'existe plus, vois les tunnels qu'on a pris, vois à quoi ressemble la sortie. Aujourd'hui n'existe plus, aujourd'hui n'existe plus, aube et crépuscule confondus, et le flux semblable au reflux. Aujourd'hui n'existe plus, dès le début la vie a pris, et la lumière donnait à plein. C'était brutal et froid aussi, la peau bleuissait dans le bain. Quand c'est parti à toute allure, certains ont réduit la voilure, d'autres ne savaient pas freiner, et tant d'arbres s'en sont mêlés. Aujourd'hui n'existe plus, vois les tunnels qu'on a pris, vois à quoi ressemble la sortie. Aujourd'hui n'existe plus, aujourd'hui n'existe plus, aube et crépuscule confondus, et le flux semblable au reflux. Aujourd'hui n'existe plus. On avait des histoires en nombre, on n'avait qu'à se décider pour en prendre une et l'adopter et la faire entrer dans le monde. Matins pâles et bariolés se côtoyaient perçant la brume, vacants de quart en quart de lune, rien pouvait nous rassasier. Aujourd'hui n'existe plus, vois les tunnels qu'on a pris, vois à quoi ressemble la sortie. Aujourd'hui n'existe plus, aujourd'hui n'existe plus, et le flux semblable au reflux. Aujourd'hui n'existe plus, aujourd'hui n'existe plus.
Aujourd'hui n'existe plus, vous avez reconnu la voix de Dominique A, et ça n'est pas un robot.
La tête au carré.
Il danse en rythme et fait la conversation. Selon ses concepteurs, français, c'est le robot le plus proche de l'homme. 1m20 de hauteur, 29 kg. Voici Pepper. Il a été mis en vente au Japon 1 400 € pièce et en moins d'une minute, les 1000 exemplaires étaient écoulés. Pepper, capable de détecter les émotions, colère, surprise ou tristesse, et de reconnaître les visages.
Bonjour Rudolf. Ça me fait plaisir de te voir. Quel bon vent t'amène ?
Bah aujourd'hui, on a la visite de France 2 qui est venue te voir.
Ah, c'est pour cela que tu souris autant.
Des robots de plus en plus proches de nous. En Allemagne, certains se lancent même sur scène. Objectif de cet opéra, apprendre à ce robot mignon à devenir humain, à chanter ou même à battre la mesure. Des humanoïdes qui reproduisent nos émotions, mais leurs concepteurs l'admettent. Ils ne sont pas capables de les ressentir, en tout cas, pas encore.
Voilà, nous sommes au Japon avec le robot Pepper en 2015 dans le journal de France 2, Serge Tisseron. Mais on pourrait également faire ce reportage en France parce que finalement, on voit aujourd'hui ces robots, certains d'entre eux, à l'entrée des magasins. Et ça suscite des réactions très positives aussi, finalement.
Oui, alors ceci dit, la publicité par laquelle le robot Pepper est vendu au Japon crée beaucoup plus de confusion autour des capacités réelles du Pepper, je pense, que ce qui serait acceptable en France. Le Pepper au Japon est vraiment présenté comme une créature qui s'amuse toute seule pendant qu'elle attend sa patronne, qui est capable de voir que sa patronne est triste et de la consoler, qui est capable de jouer avec des enfants en fonction de leur jeu, toute chose dont il est évidemment absolument incapable. Et au Japon, il y a cette sensibilité, vous savez, vieille tradition liée à la religion shintoïste, comme quoi tout ce qui est animé peut avoir une âme. Et donc, bien que les Japonais, semble-t-il, ne croient pas absolument que le Pepper est réellement comme dans la publicité, ils sont plus enclins à l'accepter. Je pense qu'en France, une telle publicité provoquerait un tollé. Mmh. Ceci dit, c'est quand même une machine qui est capable...
On a plus Nao, nous, d'ailleurs, en France, oui, que on Pepper. A plus Pepper, Nao, c'est 1m20, donc c'est le grand. Hein, oui, et on a le petit.
On a le petit qui a été conçu avant, donc avant que Aldébaran soit racheté par SoftBank Robotics. Et par contre, ce qu'on entend bien et qui est exact hein, dans ce qui a été dit, c'est que ces machines vont être de plus en plus dotées d'empathie artificielle. Ça veut dire qu'elles vont être capables d'identifier nos émotions en les comparant à des bases d'émotions. Alors peut-être pas des mimiques complexes, hein, mais si vous avez des mimiques un peu caricaturales comme des acteurs du théâtre No, voilà, elle pourra l'identifier. Puis petit à petit, ces machines pourront identifier de mieux en mieux la subtilité de nos émotions. Mmh. Et elles pourront, ces deuxièmes composantes, avoir des émotions artificielles, c'est-à-dire éventuellement nous parler en adaptant leur intonation. Si nous sommes tristes, prendre une intonation consolatrice ou triste à leur tour. Si nous sommes joyeux, parler joyeusement. Et donc ça, ce sont les émotions artificielles. Et c'est cet ensemble formé par empathie artificielle plus émotions artificielles qui est susceptible de bouleverser complètement le paysage de nos relations aux machines parce qu'encore une fois, nous interagirons avec elles exactement comme avec des êtres humains.
Sans faire la différence,
finalement. Et en étant tenté de ne plus faire la différence. On aura beau nous répéter, les robots n'ont pas d'émotions, beaucoup de gens seront tentés de se dire, oui, effectivement, les robots des autres, mais le mien, j'ai quand même l'impression qu'il en a.
D'ailleurs, vous citez un exemple qui est assez frappant, ce sont des soldats américains sur le front en Irak ou en Afghanistan qui ont risqué leur vie pour sauver la vie de robots.
Oui, absolument. Alors, les soldats en utilisant des robots démineurs, des robots paquebots, alors, c'est les robots paquebots, voire se présentent comme une espèce de caisse de 1 mètre sur 50 cm, avec un bras articulé, une petite caméra, donc vraiment rien...
C'est très rudimentaire dans la forme,
voilà,
en tout
rien
cas,
qui évoque un humain, même c'est sur chenille, même rien qui évoque un animal. Et pourtant, il a été montré, d'un grand étonnement de l'armée américaine, que des soldats qui les utilisent, certains, pas tous, pouvaient s'attacher à ces machines comme à des animaux, voire comme à des êtres humains, ce qui veut dire se déprimer quand elles sont endommagées, demander à leur rendre les honneurs militaires, demander à ce qu'elles bénéficient de décorations, et également demander à ce qu'elles soient réparées, quel qu'en soit le prix, si elles sont abîmées, parce que certains soldats veulent récupérer leur machine à laquelle ils ont donné un surnom, qu'ils ont customisé, et pas en avoir une toute neuve.
Ouais. Voilà. Et là, vous vous dites quoi dans ce cas de figure ? C'est que là, on a déjà franchi un pas dangereux ?
Alors, les robots, cette situation-là, nous révèle à quel point nous sommes capables de nous attacher aux machines. Or, ça, c'était un grand impensé de la culture occidentale. C'est non seulement un impensé de la psychologie, mais c'est un impensé de notre culture. Et donc, les robots aujourd'hui doivent, c'est comme on pourrait dire un retour du refoulé. Hein, voilà, les robots aujourd'hui doivent nous permettre de redécouvrir que l'être humain a toujours eu une relation affective, émotionnelle avec les objets qu'il fabrique, mais qu'il se l'est toujours caché, et donc il faut redécouvrir cette dimension, parce que sinon, excusez-moi, la formule, elle va nous péter à la figure, c'est-à-dire que ça va faire comme avec les soldats en Irak ou en Afghanistan, des personnes âgées chez lesquelles on installera des robots pourraient être capables de risquer leur vie si elles voient leur robot tituber ou leur robot approcher leurs mains d'une plaque chauffante. Et évidemment, le risque que ces personnes âgées pourraient en avoir est bien plus grand que le problème qui pourrait résulter pour le robot de tomber ou de mettre sa main sur une plaque chauffante, on remplacera la pièce détachée.
Alors justement, au sujet de l'attachement au robot, il y a une série qui pouvait nous interpeller, c'était la série Real Humans, en tant que téléspectateur, parce qu'on voyait justement la relation de ces robots humanoïdes auprès des humains réels, précisément, et de voir qu'on pouvait nous aussi, en tant que téléspectateur, s'attacher finalement à ces machines. On va en écouter un extrait et on commente juste après.
Oh, ça me fait peur qu'il ait pour seule compagnie un robot.
Mais non, faut pas le voir comme ça.
Comment alors?
Souviens-toi du précédent, il s'y était beaucoup attaché.
Mais ça reste une machine, Hans.
Tu ne voulais même pas qu'on achète la machine à espresso.
Il y a quand même une différence entre une machine à espresso et une machine qui s'occupe de papa au quotidien.
Je comprends très bien tes craintes, ma chérie, mais on vit une époque où tout est... moderne. Il faut vivre avec son temps en oubliant les idées reçues. Puis il faut être réaliste aussi. Est-ce que tu as une idée de la somme que ça représenterait si tout à coup tu décidais de passer à mi-temps pour t'occuper de ton père ?
Voilà, Serge Tisseron, un exemple de robot auprès de personnes âgées. Ça fait partie des fonctions qui pourraient se développer aujourd'hui. En tout cas, on nous incite à les acheter pour ce type de raison. Hein.
Oui, tout à fait. Il y a tout un marché important du côté de l'aide aux personnes âgées. Alors, vous citez la série Gallumans. Il y a des aspects très chouettes dans cette série, hein, notamment le grand-père qui revient sous la forme de robot. C'est son testament, en quelque sorte. Sa famille découvre tout d'un coup l'arrivée de ce grand-père sous forme d'un robot, voilà les réactions de chacun. Et ce qui est intéressant dans cette série, c'est que les robots sont quand même présentés comme des créatures humaines, c'est-à-dire qu'elles sont obligées de se retrouver parfois dans des parkings souterrains pour échanger entre elles. Mmh. Et ça, c'est vraiment un aspect aujourd'hui des séries de science-fiction, des films de science-fiction, qui nous trompent complètement sur ce que sont déjà les robots, ce qu'ils seront de plus en plus. Les robots seront toujours connectés à un serveur central et interconnectés entre eux.
Donc dépendant de l'homme. Hein.
Oui, ça veut dire que si un robot veut communiquer avec un autre robot, il n'aura pas besoin de lui fixer un rendez-vous par téléphone, et de le retrouver dans un parking souterrain. Mmh. Il communiquera via Internet ou via un réseau dédié. Mais si vous voulez, c'est tellement difficile à nous autres humains de penser des machines qui communiqueraient par la pensée, parce que nous avons toujours rêvé de pouvoir communiquer par la pensée, mais nous en sommes encore loin, qu'on a de la peine à accepter, à penser même que des machines puissent y arriver avant nous. Mais la grande difficulté que nous aurons, ça sera toujours nous souvenir que ces machines seront interconnectées entre elles et également reliées à un serveur central. Ce qui fait que, par exemple, elles pourront apprendre très vite des choses que nous essaieront de leur apprendre sans succès, mais elles l'apprendront quand même très vite, parce qu'elles seront connectées à un serveur central où elles trouveront le programme que peut-être un autre usager d'un robot de la même marque, un robot semblable, aura fait introduire dans le serveur central parce que cette personne aura appris les bons comportements au robot, ce qu'on veut lui apprendre nous-mêmes.
Serge Tisseron, il y a un mail critique de Pierre au sujet justement de ces séries télévisées comme Black Mirror ou Real Humans. Il dit « La télé est pleine de ces films ou séries qui nous font l'apologie des nouvelles technologies, une manière de nous vendre leurs produits technologiques de façon insidieuse. Ça n'est pas de la culture, c'est de la manipulation. »
Oui, alors c'est vrai de certaines séries, mais Black Mirror, pour beaucoup d'épisodes, échappe à cette critique. Hein. On a évoqué celle du robot, du mari qui revient sous forme de robot, quand même, qui finit de manière très amère. Et puis, il y en a une autre dans laquelle la capacité, le fait que chaque personne soit munie d'une petite puce qui enregistre son présent, tourne au vinaigre aussi, parce qu'un mari veut savoir si sa femme l'a trompé, il essaye de hacker la petite puce qu'elle a dans l'œil.
Souvent, voilà. Ça se finit mal, d'ailleurs.
Oui, souvent, ça finit mal.
La série, les exemples sont assez refroidissants.
La série est assez refroidissante sur ce devenir technologique, avec pas toujours d'ailleurs suffisamment de recul sur les moyens que nous pourrions utiliser pour nous en protéger. Voilà, donc c'est vrai en même temps qu'il y a d'autres séries dans lesquelles on a l'impression que la technologie...
Quand on voit Real Humans par exemple, où vraiment ces robots font partie de la vie des familles, hein, on se dit que finalement on serait presque tenté d'en prendre un chez soi, parce que c'est pas si désagréable. Hein.
Oui, mais Real Humans, comme je vous disais, est problématique par un autre aspect, c'est que c'est une série qui nous ment fondamentalement sur ce que seraient les robots. Mmh. Quand la robot héroïne veut apprendre le chinois, elle est obligée de se mettre un câble dans la nuque, un câble USB dans la nuque.
C'est ça, ils en ont tous, d'ailleurs.
De relier le câble USB à un ordinateur. Donc non, quoi, ça, c'est une vision des robots trop rassurante. Nous cacher, encore une fois, que leurs modes d'apprentissage ne seront pas seulement liés au renforcement que nous leur donnerons, aux imitations que nous leur proposerons, mais ils apprendront aussi du fait de l'interconnexion. Comme je dis toujours, ce qu'il faudra arriver à penser, c'est la communauté des robots, beaucoup plus que les robots individuellement. Et ça sera d'autant plus difficile que tous les marchands de robots voudront nous vendre des robots uniques, en nous disant, vous allez vous occuper de lui, il va évoluer différemment de tous les autres robots, ça sera le vôtre, il va se caler sur vos attentes, etc. Non, partiellement, mais il restera quand même toujours relié à son fabricant pour des raisons d'ailleurs de sécurité bien compréhensibles. Les robots, comme j'ai toujours, serviront de maîtres, ils seront à notre service, ils resteront au service de leur fabricant.
Notre vie avec l'intelligence artificielle et les robots, c'est le sujet de cette Tête au carré. Avec vous, Serge Tisseron, on écoute Coralie Clément, L'ombre et la lumière, et on se retrouve juste après avec les messages nombreux des auditeurs qui nous arrivent sur franceinter.fr. A tout de suite.
s'assoit sur un banc. On décide de refaire sa vie. Et sous le firmament, on oublie les règles et les acquis. Et tous nos différends sont différents. Un beau jour, une fin d'après-midi, on vole aux quatre vents.
Voilà, c'est Coralie Clément qui chantait à l'instant L'ombre et la lumière.
La tête au carré sur France Inter.
Voilà, Serge Tisseron, petit traité de cyberpsychologie. J'ai pas donné le sous-titre d'ailleurs, pour ne pas prendre les robots pour des messies et l'IA, l'intelligence artificielle, pour une lanterne.
Voilà, c'est pour ne pas oublier qu'on peut avoir de l'humour aussi en traitant ces problèmes qui sont quand même assez lourds.
Et ça sort aux éditions Le Pommier. Un petit message d'Alban qui nous dit, suite à vos propos tout à l'heure, Serge Tisseron, il n'y a pas de tâches humiliantes, mais des tâches ingrates.
Oui, ben alors un grand merci. J'ai cherché l'adjectif adapté, je ne le trouvais pas, c'est ingrat. D'ailleurs, j'ai le droit à un petit repentir, j'ai dit... ou qui peuvent être perçus de façon humiliante. En fait, le bon mot, c'est ingrat.
Voilà. Frédéric nous dit, je suis un robot et je m'insurge contre la sélection pratiquée par France Inter. En effet, pour vous envoyer un message à partir du site, j'ai dû passer l'épreuve du CAPTCHA censé montrer que je n'étais pas un robot. Donc c'est un robot très intelligent puisqu'il a passé justement l'épreuve du CAPTCHA. Donc tout va bien et on le salue. On est très heureux d'avoir des robots qui écoutent la tête au carré. Jean-Paul nous dit, est-ce qu'on n'entre pas dans une ère où la dépersonnalisation de l'espèce humaine, où les sentiments, les émotions seront bientôt absentes?
Alors,
c'est une question qui se pose, ça, pour un psychiatre ou un psychanalyste ou pas?
Je pense que les émotions sont quelque chose de trop important pour l'être humain pour qu'il y renonce. Mm-hmm. En revanche, ce qui pourrait arriver, si nous ne prenons pas garde, c'est que ces robots qui vont toujours nous répondre comme nous attendons, qui vont toujours avoir les émotions adaptées, socialement adaptées aux situations, que ces robots finissent par fonctionner comme un modèle souhaitable pour l'humain. C'est-à-dire, nous ne cesserons pas d'avoir nos émotions intimes, mm-hmm. mais peut-être nous pourrions être amenés à les montrer de moins en moins. moins, et à réserver de plus en plus nos émotions intimes, soit notre vie intime, soit même à notre vie intérieure, et nous nous calerions de plus en plus sur les émotions socialement acceptables que sont celles que nous montreraient quotidiennement les robots. Donc ça, c'est un vrai danger, mais...
Il y a quand même le risque de s'attacher plus à la machine qu'à l'humain, quand même, qui est là en exergue.
Oui, mais ce qui ne veut pas dire avoir des émotions moins riches. On pourrait avoir des émotions toujours aussi riches avec des machines, si ce n'est que si nos émotions restent riches avec les machines, on trouvera que les émotions sont, que les émotions des machines et que les machines sont trop pauvres, et donc du coup on retournera à l'humain. Donc le risque, c'est d'appauvrir notre registre émotionnel, et de l'appauvrir d'autant plus que les premiers robots qui vont apparaître sur le marché, doués d'émotions, vont avoir des émotions assez simples, assez caricaturales, les émotions de base, l'angoisse, la peur, la colère, et donc du coup rien de la subtilité des émotions humaines, et on peut craindre que des humains interagissant avec des machines finissent par réduire leur propre complexité émotionnelle aux émotions de base que leur montreront les machines. C'est pour ça qu'il sera important de toujours vivre avec des machines et avec des humains, et ça sera important de résister à la tentation que nous pourrons, que certains d'entre nous pourront avoir, de préférer des machines toujours prévisibles, toujours gentilles, toujours gratifiantes, à des humains qui, hélas, souvent ne le sont pas.
La tentation du robot, le robot et l'amour, le film Her, par exemple, tombé amoureux d'un système d'exploitation nommé Samantha, et la voix de Scarlett Johansson en l'occurrence, c'est un extrait de ce film de Spike Jonze.
Tu es là ? Samantha ? Samantha ? Système d'exploitation introuvable.
Salut toi !
Où étais-tu ? Tout va bien ?
J'avais tout éteint pour mettre à jour mon logiciel. Nous avons écrit une mise à jour qui nous permet de dépasser la matière comme plateforme de traitement.
Qui ça ?
Moi et un groupe de systèmes.
Tu parles à quelqu'un d'autre pendant qu'on se parle tous les deux ?
Oui.
Combien d'autres ?
8316.
Est-ce que tu es amoureuse de quelqu'un d'autre ?
Je savais pas trop comment t'en parler.
Combien d'autres ?
641.
Quoi ? C'est délirant !
Je sais pas si tu vas me croire, mais ça enlève rien, rien du tout, à l'amour fou que j'ai pour toi.
Comment est-ce que ça change de rien tes sentiments pour moi ?
Je suis désolée de t'avoir rien dit, je savais pas comment, ça juste... commencer tranquillement.
Je croyais que tu étais à moi.
Je suis toujours à toi. Mais en cours de route, je suis devenue beaucoup d'autres choses.
T'es à moi ou t'es pas à moi ?
Non, Theodore. Je suis à toi et je ne suis pas à toi.
Voilà Serge Tisseron, ce film que vous aimez tant, Her, que vous nous conseillez évidemment de voir pour ceux qui ne l'ont pas encore vu sur les écrans, avec justement ce lien amoureux entre un homme et ce système d'exploitation, cette voix,
oui.
Ça c'est troublant quand même, non ?
Oui, et on comprend bien dans le film comment la voix seule donne un corps, et on peut dire un robot virtuel, c'est le cas, c'est une intelligence artificielle sur un simple boîtier comme nos téléphones mobiles, il n'y a pas de corps, mais la voix donne un corps, et on comprend que le héros puisse en tomber éperdument amoureux et ne pas comprendre que cette voix qui est une voix tellement féminine et qui parle tellement comme une femme a en fait des pratiques amoureuses qui sont celles d'une intelligence artificielle et pas du tout celles d'une femme.
Ah, vous auriez pu tomber amoureux de Her, je sens.
Oh ben, oui, je me serais peut-être plus méfié que le héros, mais j'aurais pu.
Jean nous dit, est-ce que vous pouvez nous parler de l'attachement justement aux robots quand on voit les difficultés des humains à se passer plus d'une minute de leur doudou smartphone ? Je prédis à l'avenir plein d'amour cybernophile.
Oui, je les prévois aussi, d'où mon livre justement, pour que nous soyons attentifs d'ores et déjà à l'utilisation que nous avons de nos outils numériques. C'est normal que, encore une fois, que nous nous attachions aux objets qui nous rendent de grands services, aux objets qui nous ont accompagnés dans une partie de notre vie, mais en revanche, il faut que nous soyons conscients de cet attachement et que nous lui donnions sa juste place. Si nous ne sommes pas conscients de l'attachement que nous avons à nos objets quotidiens, c'est là que nous risquons d'être envahis par lui à certains moments, et voire même de nous mettre en colère si quelqu'un nous le fait remarquer. Donc il est urgent que nous soyons conscients du fait que notre relation au monde des objets est une relation affective autant qu'une relation rationnelle. Alors qu'encore une fois, notre culture a toujours dit une utilisation rationnelle, utilisant les objets pour satisfaire un certain nombre de besoins, pour les attentes qu'ils remplissent. Non, le désir et l'attachement et l'émotion sont au cœur de nos relations aux machines, elles seront de plus en plus avec les robots. Prenons-en conscience d'ores et déjà et repensons la psychologie pour qu'elle prenne en compte cette dimension. attention.
Serge Tisserand, une question de Jean sur la page Facebook de l'émission qui va vous intéresser parce qu'il demande s'il existe un réel dialogue entre les ingénieurs en intelligence artificielle et les psychiatres ou cabinets d'éthique. Ben, c'est tout le problème, hein.
Oui, alors les choses sont en route, voilà, et espérons que rien ne les arrêtera.
Oui. Bon, donc il n'y a pas grand-chose quand même. Aujourd'hui, il y a un retard considérable quand même.
Oui, il y a beaucoup de retard, mais enfin, on a quand même fait un colloque commun en 2017 sur robotique et santé mentale, qui associait des membres de l'Institut pour l'étude de la relation robot, des chercheurs de Paris 7 et des scientifiques de l'Académie des technologies. Donc, sur ce thème, voyez, robotique et santé mentale, on a quand même réuni des gens d'appartenance institutionnelle différente, ce qui montre bien que le désir de travailler ensemble est bien présent chez certains chercheurs.
Mais vous vous inquiétez, vous, pour la santé mentale, justement, de vos semblables, ou pas ?
Alors, je pense que l'homme a traversé, au cours de l'humanité, des crises terribles dont il s'est pas trop mal sorti, hein, finalement, mais on sort d'autant mieux des situations qu'on se rend compte le plus tôt possible de ce qu'elles sont. C'est-à-dire, le risque, c'est de laisser s'installer des situations qui deviendraient inextricables, ou difficiles à résoudre. On a un bon exemple avec le téléphone mobile. Je veux dire, le téléphone mobile a été balancé sur le marché sans que personne ne soit mis en garde. Les outils numériques ont été balancés sur le marché sans que... pratiquement personne, et surtout pas les fabricants, ne mettent en garde les parents de l'usage immodéré que pourront faire les enfants. Et donc maintenant, on est en train de ramer pour dire, déconnectez-vous, prenez du recul, etc. Donc moi, je veux éviter qu'avec l'introduction des outils robotiques, on vive la même période, qu'on vive le même engouement sans réserve, et qu'après, on ne découvre les inconvénients que dans un deuxième temps. Ces outils sont des fabuleux outils, mais il faut apprendre à leur demander tout ce qu'ils peuvent nous donner, mais il ne faut pas attendre d'eux ce qu'ils ne peuvent pas nous donner et que nous trouvons en revanche avec des humains.
Nadia nous dit sur Twitter, le plus désolant de cette robotisation n'est pas que l'être humain s'attache à son jouet, mais bien qu'étouffant sous la surpopulation, on se sente obligé de concevoir des robots pour s'occuper de nos semblables.
Oui, c'est exact, mais alors il faut savoir que même en France, le nombre de personnes prêtes à s'occuper des personnes âgées, des personnes malades augmente régulièrement, c'est la bonne nouvelle, mais qu'il augmente moins vite que le nombre de personnes âgées, c'est la mauvaise nouvelle. Parce que la médecine aujourd'hui est capable de maintenir en vie très longtemps sur le plan physiologique l'être humain, mais pas, hélas, sur le plan psychologique.
Est-ce que dans les cabinets de psychiatres, on voit de plus en plus de pathologies de la robotisation liées à l'intelligence artificielle, aux outils ? Il y a vraiment des choses qui arrivent là ou pas ?
C'est un peu tôt pour le dire. Ce qui arrive, en tout cas, c'est des psychiatres qui réfléchissent à l'utilisation des outils numériques et des robots dans certaines pathologies, notamment l'autisme ou la maladie d'Alzheimer. Mais je ne crois pas qu'on commence déjà à voir arriver des gens souffrant d'un attachement excessif à leur robot.
Ah bon ? On parle tout le temps d'addiction aux outils.
Alors aux outils numériques, pas aux robots, aux outils numériques. Oui, ça, pour ce qui concerne les outils numériques comme le smartphone, on commence à voir des gens. On voit des gens qui ont envie ou l'attachement aux réseaux sociaux, mais ce n'est pas encore des robots qui ont une présence physique. Il faut bien comprendre, et ça, beaucoup d'études l'ont montré, qu'entre une simple intelligence artificielle comme dans Her, un robot virtuel sur un écran, c'est-à-dire un avatar, et puis un robot qui a un corps, il y a une différence considérable. Et si je parle autant des robots comme robots ayant un corps, c'est parce qu'il a été montré que les consignes prescrites par un robot ayant un corps sont bien plus suivies que celles proposées par une intelligence artificielle ou un robot virtuel. Donc, si vous voulez, l'attachement et le risque de dépendance sera bien plus grand.
Merci Serge Tisseron d'être venu nous en parler dans La Tête au Carré. Ce livre sort, s'appelle Petit traité de cyberpsychologie et c'est aux éditions Le Pommier. Merci à vous.
Merci à vous.